Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Emmanuel Macron à Vichy, les hôpitaux qui commencent à voir arriver des enfants positifs au Covid. Et puis, on parlera des prévisions de croissance record pour cette année, du jamais vu depuis un demi-siècle même.
Deux sujets à partir de 12h40, le bilan d'Angela Merkel. Question également sur Olaf Scholz, le nouveau chancelier qui a prêté serment ce matin. Et puis le phénomène Kuch à 12h50, pourquoi ça marche?
Notre question du jour sur RTL.fr, comment les mairies de Grenoble ou Lyon, les mairies de Lyon ou Grenoble, faut-il bannir le foie gras des réceptions officielles? Eh bien vous dites non à 81%. Notre météo du jour, c'est avec vous Peggy Broche. Et c'est bien agité aujourd'hui, sauf au nord.
Exactement Amandine, entre les Ardennes, l'Île-de-France, la Bourgogne, le centre, on conserve un temps sec avec des éclaircies. Mais ça reste pluvieux sur la façade est et la Corse avec de la neige à basse altitude. Attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes. Dans le sud, la façade atlantique, les côtes de la Manche, de fréquentes averses, beaucoup de vent, des orages, du grésil. Tout ça sur les côtes et des températures qui vont de 4 à 8 degrés jusqu'à 12 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et ce sera donc sans aucun doute l'une des images du jour. Emmanuel Macron à Vichy. Plus de 40 ans qu'un président français ne s'était pas rendu sur place dans cette commune, tristement célèbre pour avoir abrité le gouvernement de Pétain. Le président qui a d'ailleurs donné le ton dès ce matin sur France Bleu.
Cette histoire, nous l'avons vécue. Elle est écrite par les historiennes et les historiens. Et c'est une bonne chose de s'y tenir. Et gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir.
Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Vous suivez ce déplacement d'Emmanuel Macron pour RTL. Gardons-nous de manipuler l'histoire, dit le président. Le message est directement adressé à Éric Zemmour.
Oui, même si Éric Zemmour, c'est l'homme dont Emmanuel Macron ne prononce jamais le nom. Il ne le désigne jamais directement, mais il est déjà partout dans ses discours. Ces dernières semaines, on a entendu le chef de l'État s'inquiéter, je cite, du retour des vents mauvais ou encore de la nostalgie d'un passé qui n'existe pas. Alors jusqu'ici, il s'agissait de petites touches, de petites allusions. Jamais la réponse n'avait été aussi directe. Éric Zemmour prétend que Pétain a sauvé des Juifs français. Une tentative de réhabilitation qui fait bondir les historiens et donc également Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, qui parle de manipulation de l'histoire.
Et ce message, Emmanuel Macron va le prolonger tout au long de la journée.
Oui, il y a eu les mots ce matin, cet après-midi viendra le temps des images et certaines parlent d'elles-mêmes. Deux temps de recueillement sont prévus tout à l'heure à Vichy, l'un devant une stèle hommage aux Juifs déportés et l'autre devant une autre stèle. Hommage cette fois aux 80 parlementaires qui n'avaient pas voulu voter les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. L'Élysée nous rappelle qu'Emmanuel Macron vient aussi parler d'avenir à Vichy, d'investissement au plan local, prétend qu'il ne s'adresse à personne en particulier, mais enfin là, le message est assez clair.
William Galibert, depuis la préfecture de l'Allier pour RTL. Première réaction ce matin côté Éric Zemmour, celle de Benjamin Cauchy, l'un des porte-parole du désormais candidat.
Emmanuel Macron est en train d'interpréter une analyse historique qui a été portée il y a de nombreuses années par Éric Zemmour, qui à l'époque était journaliste et polémiste. Aujourd'hui, Éric Zemmour est candidat à la présidence de la République. Ce qui intéresse les Français, c'est le grand déclassement, c'est le grand remplacement. C'est certainement pas d'avoir un président de la République qui s'amuse à jouer aux critiques littéraires. Les Français attendent des propositions concrètes et une vision pour la France. Et donc, je ne perdrai pas de temps. Nous ne perdrons pas de temps à nous rabaisser à ces tentatives de diversion d'Emmanuel Macron, qui montrent bien qu'il est indigne de sa fonction.
Benjamin Cauchy, l'un des porte-parole d'Éric Zemmour, joint pour RTL par Thomas Després.
Emmanuel Macron qui sera peut-être bientôt contraint de se passer de son ministre délégué aux petites et moyennes entreprises.
Alain Grisé, poursuivi pour déclaration de patrimoine incomplète. Le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision, ce sera tout à l'heure à 13h30. Le parquet, on le rappelle, a requis 10 à 12 mois de prison avec sursis à son encontre. Le patron de la Banque de France l'annonce ce matin sur RTL. La France connaîtra bien une croissance record cette année, du jamais vu même depuis un demi-siècle.
Je peux déjà vous dire ce matin que la croissance française sur 2021 sera à 6,7% dans nos prévisions, ce qui est un chiffre beaucoup plus élevé que ce qu'on attendait première moitié de l'année, et c'est le plus haut chiffre de croissance depuis plus de 50 ans. Quand même 2 point d'attention hein, dans cette enquête, c'est les difficultés d'approvisionnement des chefs d'entreprise. Nous les prenons au sérieux, même si nous pensons qu'elles sont temporaires, mais aujourd'hui ça pèse. Et puis il y a les difficultés de recrutement. Alors celles-là sont un peu moins fortes aujourd'hui, mais par contre, nous craignons qu'elles soient plus durables.
François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, invité ce matin sur RTL d'Alba Ventura. Une situation économique, un avenir économique qui dépendra bien sûr de la crise sanitaire. Voilà une bonne nouvelle ce matin. Le variant Omicron, dont on vous a beaucoup parlé, eh bien, il est sans doute moins dangereux qu'on ne pouvait le redouter, Agathe Landais.
Oui, car selon l'OMS, il est, je cite, « fort improbable que ce variant échappe totalement au vaccin ». Attention, il faut quand même s'attendre à une petite perte d'efficacité, mais on ne sait pas encore de combien. Les études des laboratoires sont toujours en cours. Ensuite, sur les symptômes, Omicron ne semble pas provoquer de formes plus graves. C'est ce qu'a expliqué encore ce matin le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, auditionné par le Sénat.
Pour l'instant, il n'y a aucun signe suggérant que ce variant est plus grave que les autres variants. Il nous semble donc d'une gravité comparable à ce qui a été observé là jusqu'à maintenant. Il semblerait même peut-être qu'il entraîne une forme clinique un peu différente, avec moins d'atteintes respiratoires et des atteintes plus globales.
Et effectivement, en Afrique australe, les médecins évoquent des symptômes plus légers. Il faut quand même rester prudent, dit le conseil scientifique, car là-bas, la population est très jeune, donc moins sujette aux formes graves. Il faudra donc observer comment Omicron se comporte en Europe avant d'affirmer avec certitude qu'il est moins dangereux.
Et précision signée Agathe Landais pardon, pour RTL. Autre élément plus préoccupant, ce taux d'incidence qui continue de progresser chez les 6-11 ans. C'est désormais un enfant sur 100 qui est positif. Les formes graves bien sûr, sont extrêmement rares, mais certains hôpitaux voient, et ça c'est nouveau, arriver les premiers jeunes patients. Illustration en Alsace avec vous, Dimitri Ramelot.
Oui, depuis deux semaines et pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les urgences transfèrent en pédiatrie de très jeunes patients. Toujours les mêmes profils, toujours les mêmes symptômes, comme le constate Sandra Armspach, soignante dans le service.
Les enfants qu'on a hospitalisés, c'est essentiellement des bébés de 1 mois dont les parents ne sont pas vaccinés. Cette fois-ci, les crèches sont ouvertes, donc forcément, les enfants sont plus contaminés et forcément, on les voit arriver en plus grand nombre.
Et parmi les 14 lits de pédiatrie, les rares qui sont disponibles sont prêts et équipés jour et nuit à la demande du médecin coordinateur, le docteur Bernard Roth.
On est au début du pic, probablement, oui. Que nous soyons confrontés à d'autres hospitalisations qui nécessitent une surveillance, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la saturation d'oxygène. La difficulté, c'est le risque de déshydratation.
Pas de cas graves pour l'instant à Célestat, des hospitalisations de moins de 24 heures, mais beaucoup de colère dans l'équipe de pédiatrie de voir un relâchement des gestes barrières qui provoque cet afflux de très jeunes patients.
Dimitri Ramelot à l'hôpital de Célestat en Alsace pour RTL. À Sanary, près de Toulon, un homme est toujours porté disparu après l'effondrement d'un immeuble hier. Les recherches se poursuivent. Ce matin, une femme de 91 ans a été retrouvée décédée dans les décombres.
L'Allemagne, ça y est, la nouveau chancelier.
Ich höre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Olaf Scholz, officiellement investi, il a, vous l'entendez, prêté serment ce matin devant les parlementaires du Bundestag en présence d'Angela Merkel qui, elle, a été longuement applaudie après 16 ans au pouvoir.
Et on les entend, ces applaudissements. Alors, quel est vraiment son bilan? Que lui doivent les Allemands? Ce sera notre premier débat d'RTL Midi dans moins de 5 minutes.
Eux sont le symbole de la gastronomie française, les restaurateurs lyonnais. Bien figurez-vous qu'ils sont vent debout ce midi après Strasbourg. La mairie a en effet à son tour décidé de supprimer le foie gras des réceptions officielles. Décision idéologique, explique-t-elle, au nom du bien-être animal. Écoutez la réaction de Christophe Marguin, qui préside l'association des Toques Blanches, qui regroupe les restaurateurs.
Une fois de plus, je pense que notre maire se trompe de combat. Je pense que je vais faire un deuxième plat de foie gras parce qu'il faut au contraire les soutenir dans ces périodes difficiles. On arrive au moment des fêtes, en plus c'est du symbole, c'est taper sur eux à 15 jours Noël en disant qu'il ne faut pas manger du foie gras, c'est pas bien.
Abandonner le foie gras, c'est non pour vous et c'est non pour les restaurateurs lyonnais selon vous?
Ah mais c'est unanime quoi, tous les copains hier on a eu plein d'échanges et c'est certain qu'il n'y en a aucun de ceux que je puisse connaître, des vrais cuisiniers qui aiment leur métier, qui iront dans cette polémique et s'il y en a un qui y va, ça sera plutôt pour se remarquer, mais je ne le vois pas arriver, je ne le vois pas pointer le bout de son nez.
Christophe Marguin au micro RTL de Frédéric Perruche. Vous l'avez sans doute entendu dès ce matin sur RTL, le défi du jour, celui de Christophe Bourroux. Ça vous fait rire ça, Pascal, notre
oui,
monsieur
Oui, parce qu'il aurait le temps de faire un aller-retour en voiture thermique et il n'est toujours pas arrivé à Saint-Malo.
Voilà, il doit faire Paris-Saint-Malo au volant donc d'une voiture électrique, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Christophe, vous êtes parti tout à l'heure à 5h donc ce matin. Là, il est 12h39, vous en êtes où ?
Mais il nous reste tout juste 100 km pour atteindre notre destination. Autrement dit, déjà 7h35 de route pour 300 km parcourus depuis Hertel. Alors, c'est une autonomie qui est grignotée par la température. Hein. Il fait froid, pas plus de 5 degrés, plus le chauffage, et cela fait grimper aussitôt la consommation de 30%. On a pu le constater en faisant le test hein, de couper le chauffage et de rouler avec Jonathan Griveaux en doudoune, carrément. Mais le plus long, on a perdu le plus de temps, en fait, était trouver une borne de recharge disponible à mi-parcours. On en a trouvé une, mais elle était occupée par deux autres voitures électriques et au total, on a perdu 2 heures. En revanche, la bonne nouvelle, eh bien, c'est le confort de conduite. Il n'y a pas trop de bruit. Je ne sais pas si vous entendez, là, on roule, oui. On est à 80 km/h. C'est comme assez silencieux par rapport à un diesel,
trois fois plus de temps, mais c'est tranquille.
Et voilà. Et le prix de recharge aussi, c'est à peine une dizaine d'euros, là aussi. Donc, c'est plus confortable, plus long et normalement, on devrait arriver à destination à 14h. Et bien sûr, après, il y a le retour à Neuilly.
Hein. Ah oui, mais vous revenez avec la même voiture.
On revient avec la même voiture.
Bah, vous
ah
serez
oui, on recule
Noël,
devant rien.
Merci beaucoup Christophe. Du foot et la suite de la Ligue des Champions après le PSG hier, Lille joue ce soir chez les Allemands de Wolfsburg. Un nul suffit pour la qualification en 8e de finale. La dernière fois que le LOSC s'était qualifié, c'était il y a 15 ans. Mais les Nordistes combien faire mieux que le nul? Écoutez le capitaine José Fonte.
On pense qu'à gagner, la confiance elle est haute, l'énergie est bonne, nous sommes positifs, mais c'est très bien qu'on a 2 résultats possibles. Il faut bien gérer les émotions, bien gérer les situations du match. On va essayer de marquer et de gagner le match pour avoir cette possibilité aussi d'avancer en première. On ne pense pas qu'au match nul.
Le capitaine de Lille au micro RTL de Samuel Duhamel. Ce match, il sera bien sûr à suivre en direct sur RTL. RTL Foot Spécial Ligue des Champions, c'est dès 20h45.
Quel est vraiment le bilan d'Angela Merkel? On en parle dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'était ce matin au Bundestag, Angela Merkel chaleureusement applaudie par les parlementaires allemands. La scène, vous l'entendez, hein, dure de longues secondes. Dernier hommage juste avant la prestation de serment du nouveau chancelier Olaf Scholz. Alors clairement, c'est une page qui se tourne pour l'Allemagne, pour l'Europe aussi. Mais quel est son vrai bilan? Angela Merkel a-t-elle vraiment enrichi l'Allemagne comme on l'entend souvent? C'est notre premier débat sur RTL. Bonjour Birgit Holzer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour plusieurs journaux allemands, correspondante ici en France. Vous intervenez d'ailleurs régulièrement sur RTL le vendredi soir dans Ils refont à la France. Vu d'ici, on présente régulièrement Angela Merkel comme un modèle, comme un exemple à suivre. Qu'a-t-elle vraiment apporté à l'Allemagne en 16 ans?
Ce qu'elle a apporté à l'Allemagne, c'est surtout la stabilité politique pendant 16 ans. Donc c'est une femme du compromis. Donc elle a su gouverner avec plusieurs partis de différents bords, surtout avec la gauche social-démocrate pendant 16 ans, presque sans scandale, sans coup d'éclat. Donc ça, c'est sans doute son premier bilan, c'est sans doute ça. Après, c'est aussi un certain style, donc une façon de gouverner, d'apparaître toujours très calme, parfois on peut lui reprocher d'attendre très longtemps au lieu de prendre vraiment des décisions, donc d'être plutôt d'attendre. Mais je trouve qu'elle a su instaurer en Allemagne une certaine ambiance qui est plutôt sereine. Une certaine culture politique qui se base plutôt sur le calme, sur le respect, sur le dialogue. Justement, vu d'ici, vu de France, ça me paraît quand même un atout de sa façon d'apparaître et d'être.
Si j'ai bien compté, elle a connu 4 présidents français. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Avec lequel s'est-elle le mieux entendue?
Ça, c'est difficile à dire. Je pense, avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy, c'était les mêmes familles politiques. Mais je pense que les différences entre la France et l'Allemagne dépassent un peu les bords politiques. Donc, les questions de l'endettement, les questions des finances, même les questions de défense. Celui avec lequel elle s'affiche le plus, sereinement, c'est sans doute Emmanuel Macron. Je pense que c'est aussi la volonté de Emmanuel Macron de montrer cet axe franco-allemand vraiment comme un axe fort et de se montrer moins en contre-pouvoir de l'Allemagne.
D'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on lui doit ? On vante souvent les mérites de l'Allemagne, en tout cas pour ça, comme un pays fort, première puissance économique européenne. C'est grâce à elle, ça ?
Mais Angela Merkel a eu de la chance d'une certaine manière parce qu'elle a hérité des réformes dures qu'elle n'a pas dû faire elle-même. Donc a fait le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, qui est des réformes assez dures, notamment de l'assurance chômage et du RSA allemand. Du coup, elle, Angela Merkel, a plutôt géré en fait une situation qui était déjà en train de tourner, donc qui était déjà bonne. Elle a quand même mené une politique pro-entreprise, effectivement, mais elle n'a pas fait de grandes réformes, elle n'est pas comme une grande visionnaire. Mais c'est vrai que la situation économique est plutôt positive, même maintenant, après le, c'est pas encore terminé la pandémie, mais après plus d'un an de pandémie, on est presque à l'équilibre du budget, on a très très peu de chômage. Et ça, c'est sans doute aussi quand même grâce à sa politique.
Le système des coalitions en Allemagne est un mystère pour nous, puisque nous, en France, lorsque deux personnes sont dans le même parti, elles n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Mais en Allemagne, la CDU peut gouverner avec le SPD, et maintenant le SPD avec les libéraux et les verts, donc ça fait rêver. Quelle est votre explication ? On vient de passer un mois et demi où les gens se sont mis d'accord avant de prendre le pouvoir pour précisément délimiter précisément qui fera quoi dans
et
la
un
coalition.
Programme qu'ils appliqueront
exactement.
Ensuite.
Exactement, c'est tout à fait exceptionnel pour nous Français.
Bon, c'est pas le paradis absolu en Allemagne non plus. Et ça va être compliqué les 4 ans à venir parce que ça va être une coalition avec des intérêts des partis très très différents. Donc on va voir. Mais c'est vrai que notre système politique nous impose de nous entendre, impose aux partis politiques de se mettre d'accord. C'est pas toujours facile hein, et c'est pas toujours sans débat et sans
oui.
dispute.
Mais c'est le système qui fait ça, c'est pas la population ou le peuple en fait.
Oui, c'est le système qui fait ça parce qu'il faut, pour gouverner, avoir une majorité au Bundestag. Et ça vient de notre histoire aussi. Nous, on veut plus d'hommes forts qui décident tout et qui peut faire des grands ravages, comme on a vu dans l'histoire allemande. Donc, on a de façon consciente instauré un système politique qui fait que il faut un certain équilibre, il faut aussi une représentation d'une majorité des électeurs allemands.
Eh bien, merci.
C'est ça le miracle.
Merci Madame Holzer et merci d'avoir mis en perspective effectivement le fondement historique de cette coalition et le passé de l'Allemagne qui effectivement joue dans cette possibilité, dans cette volonté de créer des coalitions. Il est 12h50, alors on va complètement changer de sujet puisqu'on va parler des tuches, les frites, je ne sais pas comment on dit frites en allemand d'ailleurs.
Ah, moi non plus.
Kartoffeln, je sais, on dit en pommes de terre. C'est en Allemagne d'allemand pour arriver à ça, Kartoffeln. Frites, on dit comment, Madame Holzer ? Et parti.
On dit fritten.
Ah, fritten.
On dit fritten ou on dit pommes ?
Alors, fritten, les tuches, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'est bien sûr l'un des événements du jour au cinéma, l'événement du jour même, diront les plus grands fans, la sortie du 4e volet de la saga Tuche, sortie dans 918 salles. C'est un record depuis Star Wars 8, il y a 4 ans. Alors comment expliquer ce phénomène ? Quelle est la recette du succès des Tuches ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Notre monsieur cinéma ici à RTL. Stéphane, les Tuches, c'est toujours un carton en termes d'entrée ?
Alors, c'est devenu un carton avec le temps, parce que le premier volet en 2011 avait fait 1,5 million d'entrées, ce qui est plutôt correct, mais ce qui n'est pas colossal. Ce qui s'est passé, c'est que le deuxième, qui est sorti 5 ans plus tard, a fait 4,5 millions. Entre les deux, il faut dire que le premier avait été diffusé à la télé, et là, ça a été la vraie surprise, parce que le film a fait 8,5 millions de spectateurs, ce qui arrive extrêmement rarement pour le cinéma, et ça s'est amplifié. Le troisième a fait 5,7 millions. On attend évidemment les chiffres du 4.
Le 4, donc, visible depuis ce matin, hors avant-première. Écoutez les réactions de spectateurs, la première séance, celle de 9h dans le quartier des Halles à Paris.
C'est plaisant, quoi. Ça décontracte un petit peu par la période qui se passe là, c'est bien, ça fait du bien.
Il est à la hauteur des 3 précédents ?
Oui, oui.
Ah oui, c'était très très marrant le film.
Voilà, moi j'ai peut-être un petit peu moins ri que dans les précédents, mais autrement c'était vraiment un bon moment, une jolie histoire, le Père Noël, tout ça, donc beau film de fin d'année.
Des réactions recueillies pour RTL par Julien Fautra. Ça fait du bien, disait le premier spectateur, c'est ça la recette ?
Alors oui, c'est ça la recette, en sachant que depuis le début, les tuches, c'est pas l'humour méchant, c'est-à-dire que c'est le côté on rit avec, on rit pas de. Il y a pas de moquerie. Oui, ce sont des Français moyens dans toute l'acceptation du terme, c'est-à-dire c'est une famille normale, comme disait l'autre, mais on s'y attache. Oui, ils sont râleurs, oui, ils sont de mauvaise foi, oui, ils sont entêtés, donc ils nous ressemblent, finalement. Ça explique aussi l'identification du public envers cette famille.
Est-ce que ça rassemble tous les publics?
Alors c'est ça qui est intéressant, parce que oui, il y a autant les gamins, c'est-à-dire même les jeunes, hein, les 7-10 ans qui vont voir les tuches parce qu'il y a un côté burlesque, voilà, c'est une famille un petit peu hors norme. Et on l'entendait d'ailleurs aux voix des personnes qu'on vient d'écouter, il y a ce qu'on appelle les seniors et les adultes qui vont voir. C'est pour ça aussi qu'on atteint de tels scores.
Mais dans tous les publics, je disais aussi un public intello, c'est toujours la même question, on peut aimer Mort à Venise et les tuches.
Ah ben moi je pense
ça, mais toujours.
Évidemment, parce qu'il y a aussi des choses beaucoup plus profondes. C'est un peu les films Millefeuille, vous savez, vous riez premier degré parce qu'il y a des vannes et des gags, mais quand vous creusez un peu, ça raconte aussi pas mal de trucs sur la société.
Alors Stéphane, vous avez avec Yves Calvi et toute l'équipe d'LVT reçu l'équipe du film la semaine dernière. Et vous avez justement évoqué avec eux cette relation si particulière avec le public. Écoutez.
Ce qu'on vit est hallucinant.
Très touchant,
familles,
en fait.
C'est très touchant.
C'est assez émouvant, en fait.
Assez émouvant. Toutes ces familles qui viennent. Et en effet, les gens nous parlent des tuches comme s'ils existaient, comme si c'est des amis qu'on retrouve, des amis qui habitent une autre ville et puis ils viennent nous rendre visite pour les fêtes. Et donc ils sont très heureux de les retrouver. Et nous aussi, quelquefois, même on oublie que c'est des personnages. J'ai l'impression que ce sont des gens qu'on connaît.
Il y a peu de personnages de cinéma qui sont à ce point dans nos vies ou dans la vie des Français comme
Mais
ça.
Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est que les tuches rentrent dans une tradition française. On a eu l'équipe des Bronzés, par exemple, il y a quelques années. On avait les gendarmes, il y a très longtemps. Il y avait même Don Camillo, si on remonte, il y a très 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 longtemps. Et ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas autant attaché à des personnages qu'on voit vieillir, qu'on voit grandir. Ça fait quand même 10 ans que les tuches nous accompagnent au cinéma.
Il faut parler du talent de l'écriture, talent du jeu. Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve sont des grands comédiens. Michel Blanc, talent de la réalisation. Donc il y a beaucoup de qualité au service d'une comédie.
Il y a un vrai soin apporté à l'écriture, vous avez raison. Jean-Paul Rouve, par exemple, collabore de plus en plus au scénario. Il y a un soin de plus en plus au fil des films accordé au décor. C'est aussi, c'est pas toujours le cas, franchement, dans la comédie, là, c'est soigné. La lumière est soignée. Les gags sont soignés. Le casse, il y a Berléand, par exemple, aussi dans le 4 qui apparaît. Il y a cette idée-là d'en faire une saga, mais pas juste pour faire le film d'après. On essaye toujours d'aller un petit peu plus haut.
Et l'expression forte, c'est peut-être rire avec et pas rire de.
Exactement.
C'est peut-être celle-là la plus forte qui fait le succès de ce film.
C'est français, ça, ou pas ? Enfin, dans l'esprit. Au-delà de. Ils représentent des Français, etc. Mais est-ce que des Américains auraient pu faire des choses comme ça ? Non ?
Alors, c'est vrai que Les Tuches, c'est un cinéma français qui s'exporte assez mal, parce que c'est très franco-français, un peu comme Les Ch'tis, hein, d'ailleurs. Mais on peut imaginer, si, aux États-Unis, pourquoi pas imaginer une famille de l'Arkansas qui serait vue par les intellos de la côte Est ou de la côte Ouest. Jusqu'ici, honnêtement, c'est plutôt un concept assez français.
Merci beaucoup Stéphane, et je rappelle que Les Tuches seront à l'honneur dans Focus, le nouveau podcast quotidien d'RTL. Chaque jour, Marion Calais vous emmène au cœur d'une histoire de l'actualité du jour. Ce sera à retrouver dès 16h sur l'appli RTL et toutes vos plateformes. Merci Stéphane.
Les Tuches qui sort aujourd'hui ce 8 décembre, 50 ans jour pour jour après La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand, qui était sorti le 8 décembre 1971. Dans quelques instants, les auditeurs, à tout de suite.